dispute. Ce soir, la littérature. Ce soir, Elisabeth Franck-Dumas et Elisabeth Philippe se font face à notre affiche « L'oubli » de David Foster Wallace, paru chez L'Olivier, « Cru » de Philippe Forest, chez Gallimard, et « Martin Eden » de Jack London en folio. Vers 21h20, Lucille Comeau nous entraînera dans le petit salon pour parler avec elle des entrées dans la Pléiade. Ce soir encore, des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute, des invitations pour l'exposition présumée coupable, 14e-20e siècle, à découvrir jusqu'au 27 mars au Musée des Archives Nationales, l'hôtel de Soubise à Paris. Et nous ouvrons cette dispute avec un recueil de nouvelles signé David Foster Wallace, publié par les éditions de L'Olivier dans une traduction de Charles Recourcet. L'oubli qui donne son titre au volume est l'une des 8 longues nouvelles de ce livre, publié en 2004 aux États-Unis par l'écrivain qui se suicidera 4 ans plus tard, en 2008, à l'âge de 46 ans. Recueil de nouvelles qui aurait pu aussi s'appeler La Terreur, parce que c'est quand même l'un des fils rouges de ces 8 récits tous, enfin qui moi m'ont terrifié. Ils sont très différents, on se l'a dit, les uns les autres, mais il y a quand même cette joie, hein, de cette espérance dans l'espèce humaine qui caractérise tous les écrits que je connais pour l'instant de David Foster Wallace, dont on découvre quand même peu à peu, hein, l'immensité de l'œuvre en traduction française, puisque rappelons qu'il a fallu attendre, je crois, l'année dernière pour que l'Infinie Comédie, son très grand roman, soit enfin traduit. Cela dit, il fallait un certain courage et beaucoup de talent pour s'atteler à cette traduction. Mais là, on parle de ses nouvelles. Pourquoi pas une porte d'entrée d'ailleurs, hein, dans l'écriture de David Foster Wallace pour qui ne l'aurait jamais lu, Elisabeth Philippe ?
Oui, une porte d'entrée dans la mesure où on retrouve dans l'oubli tous les thèmes chers à David Foster Wallace, ceux que l'on trouvait dans l'Infinie Comédie, mais aussi dans le Roi Pâle, qui était son dernier roman inachevé. Donc parmi ces thèmes, une critique ou une vision en tout cas très sarcastique, satirique de la société de consommation, le sport, les médias, les addictions, beaucoup de jeux métatextuels, également un taux énormément élevé de suicide, puisque c'est, voilà, il faut le dire, effectivement, vous disiez, ce recueil aurait pu porter le titre La Terreur, mais on pourrait aussi dire La Solitude, l'absence, ouais, le manque, le désespoir, enfin voilà, on peut décliner ça à l'infini.
Mais l'oubli, c'est presque doux, du coup.
C'est presque doux, et j'y reviendrai, d'ailleurs, c'est presque un titre par antiphrase.
Ouais.
Mais c'est un recueil globalement très sombre, une expérience de lecture souvent éprouvante, puisque David Foster Wallace, dans toutes ses nouvelles, s'aventure dans ce qu'il appelle les zones limbique du cerveau de ces personnages. Et on retrouve également, si on veut utiliser ce recueil comme porte d'entrée à l'œuvre wallacienne, on retrouve aussi une autre de ses spécificités, c'est le mélange des registres et le mélange des genres, puisqu'on va passer d'une espèce de nouvelle parodie qui parodie le jargon universitaire, ethnologique, à une nouvelle totalement scatologique, la dernière, celle qui clôt le recueil, qui s'appelle The Suffering Channel, où il est question d'un d'un homme qui, d'un artiste, dont les étrons sont des œuvres d'art. Sont naturellement des œuvres d'art. Donc là, on est dans un registre très pipi caca qu'affectionne aussi beaucoup David Foster Wallace. Donc voilà, on trouve ces thèmes, on trouve ce mélange de registres. Et je vous disais, pour moi, le titre L'oubli, c'est presque une antiphrase ou un titre antiprogrammatique tant David Foster Wallace sature ses phrases. Il y a une espèce de prolifération, de saturation de détails, de données, de data même, pour reprendre ce terme-là dans ses textes. Parfois assez difficile à lire, c'est pour ça que je parlais de lecture éprouvante tant par les thèmes que par la langue elle-même qui parfois assez presque épuisante, il va vraiment jusqu'au bout. Et en fait, le langage, c'est la grande affaire de David Foster Wallace, où il y a une nouvelle qui est très explicite sur ce sujet qui s'intitule « Ce cher vieux néon », où l'on assiste en direct live quasiment au suicide du narrateur, qui est un jeune yuppie américain qui n'en peut plus de vivre avec ce sentiment d'imposture qu'il éprouve depuis son plus jeune âge, et donc qui fonce dans une voiture pour se suicider. Et on assiste à tout son monologue intérieur. Et ce qu'il ne supporte plus, c'est de se sentir trahi par le langage. Et ça, c'était vraiment la problématique de David Foster Wallace. Cette nouvelle date de 2004, donc après Infinite Jest, après le succès immense et la reconnaissance immense qu'a connu David Foster Wallace pour ce livre monstre. Et à ce moment-là, il est déjà dans un rapport au langage qui est extrêmement trouble, extrêmement compliqué, et c'est ce qu'il exprime dans ses nouvelles. Et cette impossibilité à dire le réel, à le retranscrire. Et ça, on le ressent, je trouve, dans tous les textes. Et donc, ça passe par cette saturation de détails, cette prolifération. Il utilise souvent cette image, c'est une image très, très récurrente dans l'œuvre de David Foster Wallace, de métastase. Mmh. On a vraiment cette impression de fiction qui métastase.
Elisabeth Franck-Thumain.
Oui, c'est une tentative d'épuisement du réel, on pourrait dire, sous des couches et des couches et des couches de phrases, de digressions. On a parlé de thèmes qu'on retrouve. On retrouve aussi ce style très particulier, ces digressions infinies, ces descriptions aussi complètement folles, cette érudition, ce tourbillon d'érudition qui se dépense naturellement et gratuitement sur des sujets grands comme une tête d'épingle.
Là ça encore, peut être aussi la tentative d'épuisement du lecteur, hein. Rejoindre aussi à ce que disait Elisabeth Philippe.
C'est il y a un petit peu de ça, mais parce que David Foster, voilà, ça se mérite.
Il faut y aller, quoi, quand même. Hein,
oui. Il faut y aller, mais ça fait partie de l'expérience de lecture de David Foster Wallace. Alors évidemment, ce qui vient pour nous, lecteurs français qui lisons ce livre aujourd'hui, ce qui vient aussi troubler la réception du livre et mettre quand même une couche particulière dessus, c'est que depuis, il est mort, il s'est suicidé. C'est comme un petit cadeau post-mortem qui nous arrive. Chic, encore un recueil. À mon avis, je suis pas sûre qu'il reste grand-chose d'ailleurs à traduire. C'est aussi pour ça que c'est extrêmement émouvant finalement de lire ce cher vieux néon avec ce personnage qui suscite, qui s'appelle David Wallace et dont les derniers mots entre guillemets seront plus un mot. Et toute la nouvelle, on peut pas s'empêcher, même s'il faut sans doute pas le faire. Enfin voilà, moi j'y ai succombé à cette tentation de voir cette lutte que l'écrivain, pas seulement le narrateur de cette nouvelle, mais l'écrivain lui-même menait avec le langage. Donc je dirais que ça trouble aussi toute la lecture parce que elles sont de qualité, je dirais inégale, même si une nouvelle moins bonne de David Foster, voilà, sera toujours meilleure que la plupart des nouvelles qu'on peut lire aujourd'hui. Mais je veux dire, voilà, il y en a qui sont plus ou moins amusantes, avec des passages plus ou moins ennuyeux. C'est presque la règle du jeu, voilà. Et il y a une retranscription de l'ennui contemporain qui est absolument géniale, avec une fascination sur les micro-organisations, notamment dans le milieu du travail, dans le milieu de l'entreprise ou dans les journaux, ou ces micro-hiérarchies qui ont pris le contrôle de nos vies. Bon, ça, les marques, un espèce de sabir aussi, enfin voilà, de langage très particulier de la vie de bureau, particulièrement aux États-Unis et qu'on est en train d'importer en France, qui de toute façon rend la lecture de toutes ces nouvelles absolument jubilatoire. Oui, bon, il y a des passages sur lesquels on passe plus ou moins vite. On a oublié de dire, je crois, que c'est très drôle. C'est un humour tragique.
On va parler d'ironie tout à l'heure avec Elisabeth Philippe, c'est vrai.
C'est un humour tragique, mais mais c'est extrêmement drôle. Il y a des choses incroyablement bien vues. La dernière nouvelle que vous avez évoquée, Elisabeth, qui se passe dans le milieu de l'édition, juste avant le 11 septembre. D'ailleurs, l'onde du 11 septembre plane un petit peu dessus. C'est là aussi, c'est très intéressant de la lire aujourd'hui parce qu'on se souvient qu'à l'époque, on avait l'impression que tout un monde allait disparaître. Or, ce monde, il est là, il existe toujours, il se porte très très bien. Et de voir cette petite photographie spatio-temporelle qu'il a fait de cette époque, ça aussi, c'est fascinant. Non, donc oui, c'est bon, ça se mérite, c'est un plaisir qui se mérite, mais évidemment, c'est un plaisir impératif.
Oui, ces nouvelles ont été publiées en 2004. Et ce qu'il faut dire, et ce que je trouve toujours assez fascinant en lisant aujourd'hui David Foster Wallace, c'est pas daté. C'est-à-dire, c'est pas du tout, voilà, ça n'a pas pris un coup de vieux parce que depuis, il y a eu le développement d'Internet, etc. C'est pas du tout daté. Oui, vous mettez en avant l'humour de ces nouvelles. Effectivement, on peut le remarquer. La première, notamment. Enfin, ce que je voulais noter aussi, je parlais de ces fictions proliférantes. C'est-à-dire qu'une nouvelle va comporter, en fait, souvent deux à trois histoires qui s'imbriquent les unes les autres. Et parfois, on ne sait même pas pourquoi. Il y a des espèces d'histoires parasites qui n'ont pas forcément de lien évident avec le récit principal. Donc là aussi, il y a quelque chose d'assez virtuose. Il perd un peu le lecteur, notre attention. On ne sait pas vraiment sur quoi on doit la porter. La première nouvelle, je la trouve formidable, qui se passe au milieu d'un... parmi un groupe test qui teste des gâteaux au chocolat qui s'appellent les Petits Délits, voilà, de la marque Mr. Squishy, je crois que c'est le titre de la nouvelle d'ailleurs, et l'animateur du groupe est totalement contaminé par la langue marketing qu'il doit employer chaque jour, et il y a quelque chose d'extrêmement angoissant qui se dégage de cette nouvelle, qui prend pourtant pour décor ce qu'il y a de plus quotidien, de plus banal aujourd'hui dans nos vies. Et il y a cette menace qui plane sur ce récit, donc au milieu d'un ce groupe qui teste les gâteaux Petit Délit, avec un homme qui escalade la façade de l'immeuble dans lequel se déroule cette expérience, ce groupe test. Et on comprend pas bien le lien, mais il y a toujours une menace comme ça qui plane et sur toutes ces nouvelles. Je trouve qu'il y a, et vous parliez également de l'ennui. Moi, je trouve que c'est la trajectoire de David Foster Wallace. C'est passé de l'infinie comédie, de divertissement, étudier le divertissement pour finir par essayer de comprendre l'ennui dans lequel on vit, l'ennui de l'âge adulte. Et je trouve, à ce titre, que la nouvelle qui s'intitule « L'âme n'est pas une forge » dans laquelle on suit un jeune garçon dans une salle de classe dont les élèves vont être pris en otage par un professeur psychopathe qui écrit compulsivement au tableau « Tu les tous
ouais. !»
Et les gamins, on sent la panique monter, sauf chez le narrateur qui, lui, n'écoute absolument pas ce qui se passe. Il est beaucoup plus absorbé par la fenêtre de la salle de classe dans laquelle il déroule des histoires. Et je trouve que la façon dont il déroule ces histoires dans le maillage de la fenêtre par carreaux, c'est... On a l'impression de voir David Foster Wallace écrire lui-même ses récits qui prennent corps comme ça, de case en case quasiment, avec des histoires plus folles les unes que les autres qui naissent dans son esprit. Et cet enfant a une peur panique, outre la peur de la prise d'otage, de l'âge adulte en fait. Et je pense que c'est aussi la peur qui était celle de David Foster Wallace.
Et puis, il y a cette mise en regard de différentes histoires ou cette imbrication. Vous parlez de cette première nouvelle, Mr. Squishy, où on a à la fois le fait qu'il faut quand même bien regarder les logos des produits qu'on achète, parce que il a, ce personnage, un sourire qui, en fait, est peut-être une expression de terreur et non pas quelque chose de très accueillant. Et ça renvoie aussi à l'opération de chirurgie esthétique de la mère du narrateur, qui était tellement ratée qu'elle a toujours cette expression. Alors, il faut le lire j'ai pas le livre sous les yeux, il faudrait le lire la phrase très précise, mais qui a ce visage figé dans l'expression qui précède le cri de terreur que chacun peut pousser.
Oui, on dirait qu'elle est figée dans le cri de Munch en permanence.
Donc il y a toujours cette imbrication de cet exemple-là, mais on le retrouve dans les autres nouvelles.
Oui, c'est vrai. On a l'impression qu'en fait, des sous-intrigues viennent attaquer l'intrigue principale. C'est vraiment. Et d'ailleurs, c'est particulièrement visible dans la première nouvelle dont vous parliez, sur ce panel de consommateurs qui sont dans cette tour hermétique dans la clim, et puis un personnage type Spider-Man, finalement on se rend compte quelque part, est en train justement d'escalader cette façade. Il y a vraiment cette idée d'attaque sur cette façade très lisse. Il est là et grimpe, et on est rapidement fasciné par ce personnage qui monte le long de la façade lisse de l'immeuble. On en oublie un petit peu les consommateurs, le type qui dirige le panel de consommateurs. C'est vrai que c'est génial. Il y a un mélange entre une certaine forme de sadisme, que ça soit vis-à-vis de ses personnages, même vis-à-vis de ses lecteurs, je pense, et en même temps aussi, parfois, pas toujours, une tendresse ou une humanité qu'il n'y a pas, ou qu'il y a moins d'ailleurs dans des nouvelles plus anciennes. Je trouve que c'est ça aussi qui fait la marque de l'oubli. Et donc, si on connaît déjà et qu'on aime Foster Wallace, il faut vraiment lire. Ça mérite d'être lu dans certaines nouvelles, y compris la dernière. Je trouve qu'il y a tout un groupe de filles qui travaillent pour un magazine type People. On va pas donner d'équivalent français, enfin totalement futile, dans une tour à New York. Et je trouve qu'il y a à la fois énormément d'humour à les décrire dans leur petit tailleur Armani, leur petite rivalité, et en même temps aussi une tendresse folle qui font qu'elles existent, que c'est un petit peu moins, il est un petit peu moins sévère envers ces personnages qu'il n'a pu l'être. Enfin, je ne sais pas si c'est votre sentiment.
Tout à fait. Et dans cette nouvelle, d'ailleurs, on peut presque voir une parodie de Bret Easton Ellis aussi. Il s'amusait souvent. Il y a beaucoup de nouvelles de David Foster Wallace qui ont ce côté parodique. Mais il y a toujours quelque chose, il y a cette tendresse indéniable, parce que pour moi, David Foster Wallace est certainement l'un des écrivains qui cerne le mieux le malaise contemporain, le sentiment de solitude contemporain, tel qu'il est, tel qu'on peut l'éprouver aujourd'hui. Et en même temps, il y a toujours quelque chose de toxique. Il ne faut pas oublier qu'au cœur de l'Infini Comédie, c'était quand même une vidéo tueuse qui était tellement divertissante qu'elle finissait par tuer ceux qui la regardaient. Dans une moindre mesure, lire David Foster Wallace, il y a ce côté un peu toxique aussi, ou qui nous ébranle, qui nous blesse. Enfin, le lire n'est pas tout repos, c'est pas une expérience, c'est pas de la pure évasion et du pur divertissement. Il y a quelque chose de très abrasif et qui nous, une forme de poison. Tout comme dans Mr. Squishy, où les gâteaux petits délits sont peut-être aussi un peu empoisonnés. Il y a ce côté à la fois tendre et un peu toxique.
Oui, parce qu'il y a... Pardon.
Non, j'allais dire, il y a une observation du réel qui est tellement minutieuse, qui est tellement documentée, qui est tellement érudite, qui fait qu'on n'arrive plus à voir le moment où ça décroche, justement, et où on sort totalement du réel, et on est plutôt au niveau de l'anticipation, ou qu'on est... Ça y est, on a dérapé dans un espèce de monde parallèle qui ressemble énormément au nôtre, mais qui est, pour employer un terme que vous venez d'employer, légèrement plus toxique. Et ça aussi, le fait que cette frontière soit brouillé sous des couches et des couches et des couches d'informations est assez génial.
Couches d'informations, mais ça renvoie à ce que vous disiez aussi au départ, Isabelle Philippe, sur la difficulté à ordonner le chaos par le langage, ou le langage par le chaos. Enfin, il y a quand même toujours cette tension-là chez David Foster Wallace, cette tentative, non pas d'épier le réel, mais de s'en approcher, alors pour le coup, et l'absolue solitude de l'écrivain qui n'y arrive pas, malgré tous les outils. On imagine vraiment qu'il est là à se débattre avec tout ce qu'il a.
C'est ça qui est formidable.
Et ça nous plonge aussi dans ces mondes parallèles, parce que c'est pas le réel, puisqu'on est dans un livre. Et ça, on l'oublie jamais quand on lit David Foster Wallace. On se bat aussi avec le langage. Ça fait partie, des richesses nombreuses, on a compris, qu'on peut trouver dans ce recueil qui s'appelle L'oubli, David Foster Wallace, publié par les éditions de l'Olivier, dans une traduction de Charles Recourcet.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
À suivre dans la dispute, Philippe Forest et Jack London. Avant cela, Lucille Comeau dans le petit salon. Bonsoir, chère Lucille.
Bonsoir, Arnaud.
Double entrée, si je puis dire, ce soir, dans ce petit salon, les ors de la littérature.
Oui, puisque je vais parler de ce que c'est, de ce que ça veut dire qu'entrer à la Pléiade. Et à l'occasion d'une entrée, il y a quelques semaines, un nouvel auteur est entré à la Pléiade,
vous
Jack
dites,
London.
Ah, vous vous dites « Ah, dans la Pléiade ?» Moi, je dis toujours « Dans la Pléiade ». Est-ce que c'est une faute que je fais, alors ?
Non, mais
pardon,
c'est intéressant.
Je m'interromps tout de suite.
Parce que c'est du coup
vous allez
dans
venir.
La bibliothèque de la Pléiade, parce que c'est une bibliothèque.
Pardon, je vous ai interrompu. Je suis absolument la vraie.
Donc Jack London entre dans la Pléiade. On va en reparler en plus tout à l'heure de Jack London pour une autre sortie en poche, donc complètement à l'autre bout de la librairie. L'occasion de se demander ce que ça veut dire pour un auteur donc d'entrer dans cette collection réputée luxueuse et qui choisit avec soin chaque année 3 ou 4 nouveaux titres seulement. 2 volumes donc de l'œuvre de Jack London, c'est pas l'œuvre complète, mais il y a un certain nombre de ses romans et de ses nouvelles ont paru. Donc il y a Cro-Blanc, il y a L'appel du monde sauvage. Alors j'ai mis un petit peu de temps à me rendre compte que c'était L'appel de la forêt, en fait, ce roman que j'avais lu quand j'étais adolescente, qui est devenu L'appel du monde sauvage, puisqu'il y a des nouvelles traductions. Et beaucoup aussi de nouvelles apparemment très peu lues en France, donc qu'on peut découvrir grâce à cette nouvelle édition. Alors revenons un instant sur l'histoire de la Pléiade, qui a été créée en 1931 par Jacques Schiffrin, qui la dirige pendant des années, même lorsque la collection passe sous la coupe de Gallimard, très vite en fait en 1933. Coupe sous laquelle elle est toujours aujourd'hui. À l'époque, en 32, des affiches publicitaires paraissent dans la ville vantant les mérites pratiques de ses livres. Je cite « Vous pouvez avoir tout Racine dans votre poche » avec une sorte de gravure représentant un étudiant. La Pléiade est alors considérée comme un moyen d'avoir toute l'œuvre d'un auteur à portée de main. Schiffrin pensait apparemment sincèrement s'adresser à un public étudiant. Tout ça est assez drôle quand on considère aujourd'hui que la Pléiade est un objet de luxe. C'est un livre cher avec son papier Bible, son cuir de mouton néo-zélandais, la tranche en or et puis cet appareil critique fort développé, pas franchement dans le budget d'un étudiant moyen. La Pléiade, c'est plutôt le livre bourgeois par excellence et j'en reviens à ce que c'est que d'entrer dans cette bibliothèque. On dit la bibliothèque de la Pléiade. C'est assez significatif de 2 choses. D'une part, l'importance de la matérialité du livre et d'autre part, la sélection qui préside à la constitution d'une bibliothèque. Quand on interroge Gallimard à ce sujet, cette question de la sélection reste assez mystérieuse. On ne sait pas vraiment quels critères sont retenus. Hugues Pradier, qui la dirige depuis 1996, dit seulement et assez vaguement que les œuvres retenues sont des œuvres pérennes, je cite, mais qui décident de la pérennité d'une œuvre. Alors Raymond Queneau, qui a dirigé la collection pendant des années, avait pour définir le catalogue envoyé à 200 auteurs en 1949 la question suivante : quels sont les 100 ouvrages que tout honnête homme se devrait d'avoir lus ? Apparemment, beaucoup d'auteurs avaient répondu en citant leurs propres ouvrages. Aujourd'hui, Jack London donc entre au catalogue. Il incarne 2 des évolutions majeures de la sélection : de plus en plus d'écrivains étrangers, y compris contemporains, et de plus en plus de littérature populaire ou du moins considérée comme telle. Pour autant, quand on regarde les titres qui sont les plus vendus aujourd'hui par la Pléiade, il y a Saint-Exupéry, Proust, Camus, Verlaine, Rimbaud, Malraux. C'est les 6 facettes d'une littérature bien marquée. Donc on voit que cette collection représente une sorte de vulgate de la littérature française qui reste très classique. Et pour vous, que représente la bibliothèque de la Pléiade ?
Alors si on a bien compris, la Pléiade c'est le vrai livre de poche en fait. On s'est trompé depuis toutes ces années. Pour vous, Elisabeth Philippe, que représente la Pléiade ?
Non, mais je repense à Aurélien Bélanger. Il me disait qu'effectivement, l'écrivain Aurélien Bélanger, pour lui, la Pléiade, c'était un livre de poche. C'était formidable, très, très maniable, très malléable. Il faut quand même avoir les...
Il est très chic, Aurélien Bélanger.
Il est très, très chic, voilà. C'est difficile de dire ce que ça représente aujourd'hui. Je pense que les repères ont peut-être été un peu brouillés l'an passé quand Jean d'Ormesson est entré.
Il a répondu au questionnaire de Queneau. Voilà. Faut-il publier moi.
Énorme succès pour la collection de la Pléiade. Jamais autant vendu un exemplaire. Et du coup, là, il pense à un deuxième volume de ses œuvres. Si, c'est vrai.
Il faut dire que je crois que la Pléiade représente 10% du chiffre d'affaires de Gallimard. Oui. Donc, c'est pas rien. Donc, effectivement, on peut peut-être mieux comprendre l'entrée de Jean d'Ormesson, gros vendeur s'il en est. Pour préparer cette émission, je relisais l'article qu'Ariane Chemin avait consacré, justement, la série qu'elle avait consacrée à Jean d'Ormesson, notamment le dernier article de cette série, c'était les dessous de l'entrée.
C'était formidable. Cette série.
Et il y a cette phrase de Jean d'Ormesson. La Pléiade n'est pas faite pour être lue, elle est faite pour être là. Alors, par-delà le bon mot, je pense que ça résume finalement assez bien ce qu'est la Pléiade. C'est très décoratif, c'est très joli dans une bibliothèque. Au-delà de ça, l'appareil critique, effectivement, je pense pour un public d'universitaire ou de critique, c'est extrêmement intéressant. Je me souviens que notamment celui sur Virginia Woolf, et il y avait de nouvelles traductions, c'était passionnant. Donc... Mais voilà, c'est vrai que il y a Jean d'Ormesson, il y a Virginia Woolf, on sait pas bien. Et ce que rappelait Lucille, c'est qu'on connaît pas forcément les raisons qui président à l'entrée d'un auteur ou d'un autre dans cette collection.
À ce propos, c'est très étonnant quand on cherche sur le net, il y a énormément de blogs de passionnés de la Pléiade qui ont un rapport très répulsif attiré à la collection, avec des pages et des pages de réflexions sur quelles vont être les prochaines sorties et de tractations. Enfin, c'est assez étonnant.
Est-ce que les bookmakers anglais ont ça dans leur... C'est possible, hein. Elisabeth Franck Dumas.
Vous parlez de bookmaker anglais, justement, moi ce que j'adore avec la Pléiade, c'est que c'est vraiment cette particularité hyper française du livre, à la fois enfin de cette espèce de luxe critique, de cette richesse critique, qui peut être inégale d'ailleurs selon les éditions de la Pléiade. Et puis ce luxe matériel aussi, à mon avis on est un des seuls pays au monde, l'est-on encore d'ailleurs, où le livre est un marqueur social, où avoir une bibliothèque et où avoir un livre, où avoir ça chez soi, est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Est-ce que les chiffres ont eu tendance à rester aussi haut qu'ils l'étaient ou
je
pas,
crois que c'est
je
assez
sais
stable.
Pas. C'est assez stable, ouais. Voilà, je trouve ça fascinant, je pense qu'on est le seul pays au monde à avoir ça, je pense que la Pléiade ça s'adresse à plein de publics différents, il y a ceux qui lisent ça en effet comme on lit un livre de poche, enfin je dirais un lecteur assez cultivé qui envie de, disons, lire une note sur trois en bas de page et de parcourir l'introduction rapidement. C'est formidable pour les universitaires. Si ceux qui ont envie de s'attaquer à l'Ulysse de Joyce, je recommande vivement l'édition de la Pléiade qui est plus qu'indispensable. Et puis il y a aussi ceux voilà qui ont ça parce que c'est joli chez eux, qui en achètent deux à Noël parce qu'ils ont l'agenda. Certains d'entre nous ont eu la chance d'avoir un oncle ou un membre de la famille qui chaque année à Noël ouvrait des Pléiades, offrait des Pléiades qu'on se gardait bien d'ouvrir évidemment. Je pense que ça marque aussi ça dit aussi le goût d'une époque. Est-ce qu'aujourd'hui on ferait rentrer Gobineau dans la Pléiade? Je ne sais pas, il se trouve qu'il y est. Non, on fait rentrer Jean d'Ambasson. Je pense que c'est amusant de voir, en fait, à mon avis, si on faisait une histoire de la date à laquelle certains livres sont entrés dans la Pléiade, ça dirait beaucoup du goût d'une époque. Ça transforme le livre en classique immédiat et en même temps, je suis certaine qu'on peut trouver quantité d'écrivains que plus personne ne lit aujourd'hui et dont on aurait du mal à dire que ce sont des classiques.
À l'inverse, en fait, c'est assez drôle aussi de constater ceux qui sont retirés. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne sont pas réédités, évidemment, faute de vente notamment, et qui représentait une littérature française, notamment Agrippa d'Aubigné, ça s'est arrêté l'année dernière, je crois, et Benjamin Constant.
Ah oui, terminé. Ça va revenir, Benjamin Constant, ça reviendra forcément. Et vous les rangez à part dans vos bibliothèques, les Pléiades, ou pas?
Alors,
oui.
Ah, c'est la grande question.
Oui, moi aussi, hein.
Moi non.
Ah, moi non plus. Non.
Mais vous êtes tellement chic.
Non.
Alors, comme Elisabeth
Franck
Dumas,
il y a quand même quelque chose que j'ai trouvé en préparant un petit peu cette discussion et que j'ai envie de partager avec vous, parce qu'on a parlé des auteurs qui ont tous fait des pieds et des mains pour rentrer dans la Pléiade. Ils sont nombreux, même des auteurs qui ont refusé des récompenses autrement plus prestigieuses. Il y en a un qui ne voulait pas entrer dans la Pléiade et qui y est entré, c'est Henri Michaux. Je ne sais pas si c'est à ça que vous pensiez, Elisabeth, parce que vous me regardez en souriant. Je vous lis son explication des raisons pour lesquelles il ne souhaitait pas y rentrer. La raison majeure est qu'il s'agit dans les volumes de cette prestigieuse collection d'un véritable dossier où l'on se trouve enfermé. Une des impressions les plus odieuses que je puisse avoir et contre laquelle j'ai lutté ma vie durant. Me libérer de quantité de pages d'autrefois, retrancher, réduire au lieu de rassembler, voilà qui serait mon idéal au lieu de l'étalement de tous mes textes qui à coup sûr me dégoûterait et à brève échéance me paralyserait.
Oui, parce que Michaux, il développe ça sur la plasticité de l'œuvre, la possibilité de revenir, de réécrire et de surtout pas effectivement figer. Donc ça, c'est vrai que c'est une réponse magnifique. Mais il y a aussi dans la Pléiade des titres à part, quoi. Le théâtre élisabétain qui va sortir ça, si ce n'est la Pléiade, avec on a des pièces dont on a entendu parler, mais d'autres dont on ignore absolument l'existence. Un appareil critique formidable. Je rappelle aussi la très belle édition de Claude Lévi-Strauss au moment de son centenaire. C'était absolument remarquable d'intelligence et d'études. Et on a ça aussi dans la Pléiade. Il n'y a pas que Jean d'Ormesson. Mais l'histoire aussi de Jean d'Ormesson, rien de chemin à l'expliquer, c'est que ça fait quand même des années qu'il donne ses livres à sa fille pour les publier, et que donc du coup Gallimard, ils n'en avaient plus. Donc c'est une façon de retrouver des bons chiffres de vente, des bons chiffres de vente aussi. Il y a beaucoup de raisons, vous voulez rajouter, Lucille?
Non, en fait, la seule manière de ne pas d'être sûr que son œuvre ne soit pas publiée à la Pléiade, c'est de l'inscrire dans son testament. Sinon, c'est une négociation avec les éditeurs. Donc par exemple, Beckett n'est pas à la Pléiade, alors que la Pléiade attend depuis des années. Apparemment, ça pourrait se faire parce que Minuit bloque les droits. Donc il y a des conflits, voilà, il y a des conflits, mais après qui sont entre éditeurs.
Mais du coup, Gallimard fait une remarquable publication des écrits, des journaux, de la correspondance de Samuel Beckett. Il y a un nouveau volume qui est paru récemment, c'est absolument passionnant. Et puis, on n'a pas parlé, ce que certains considèrent comme la Pléiade du pauvre, c'est-à-dire Quarto. Moi, j'adore la collection Quarto, qui est absolument formidable. Mais pour certains, c'est presque une vexation d'être en Quarto, parce que ça veut dire qu'on n'est pas en Pléiade.
Jean d'Ormesson, toujours lui, ne veut surtout pas être en Quarto. Ça aurait été indigne.
Ouais. Moi, je trouve ça génial, Quarto,
c'est
aussi.
C'est génial, pour voyager, pour tout.
Parce que là, pour le coup, eux, ils ont... Ouais. Les Pléiades s'abîment beaucoup quand on y passe vraiment du temps dessus. Les Quarto, c'est absolument inusable. Bon, du coup, on parle de Pléiades, on fait la pub de Quarto, mais remarquez, c'est la même maison, donc c'est pas très grave. Gallimard ne pourra pas nous en vouloir, et quand bien même, on s'en ficherait un peu, surtout qu'on va parler d'un livre de Gallimard dans peu de temps après avoir refermé les portes du petit salon. Mais petit salon oblige, c'est Jack London qu'on va parler à présent, avec l'édition en poche chez Folio de Martin Eden, Jack London, dans une traduction et une édition de Philippe Jaworski. Martin Eden, publié aux États-Unis en 1909 et en 1926 pour la traduction française, considérée comme l'un des chefs-d'œuvre de Jack London, considéré aussi comme le plus autobiographique de ses romans, ce que récuse d'entrée dans sa préface Philippe Jaworski. L'important n'est pas là de toute façon, l'important c'est de parler du texte et de suivre ce jeune marin épris de littérature et visiblement fait pour ça, mais les choses ne sont pas aussi simples, Elisabeth Franck Dumas.
Non, les choses ne sont pas simples, c'est le roman d'une ambition acharnée, l'élévation sociale et intellectuelle de ce jeune marin de conditions populaires qui s'éprend à la fois de littérature et d'une jeune fille de la haute qui va l'initier à tout ça, chez qui il va découvrir entre autres les livres. C'est un formidable roman américain, c'est une trajectoire très américaine, cette idée qu'on peut toujours s'améliorer, qu'on peut toujours se perfectionner, quand bien même la fin serait plus ou moins tragique. C'est un grand classique de la littérature américaine, et c'est un livre à lire si on ne l'a pas lu et si la seule impression qu'on a de Jack London, c'est Cro-Blanc. C'est un livre à relire aussi. Quand il est sorti en poche et qu'on l'a sélectionné pour l'émission, je me suis dit, tiens, je vais re-regarder. Puis en fait, je me suis surprise à le relire entièrement parce qu'il y a un souffle, il y a une énergie narrative qui fait qu'on est totalement embarqué dans cette histoire. Qu'en plus, si on écrit soi-même, il y a quand même quelque chose, la réflexion autour de l'écriture, de la publication, de l'essai, de la réécriture qui est formidable, et où on se rend compte que c'est un immense roman sur la passion de la littérature. C'est un dès les premières pages, lorsque Martin Eden rencontre cette jeune fille dont il va tomber amoureux, sa réflexion première, c'est de dire « les livres disaient donc vrai ». Et en fait, toute la vision, voilà, les livres, c'est une manière de contrôler le monde, c'est ce qu'il dira, enfin, de se rendre maître du monde. Écrire, c'est se rendre maître du monde. Et pour connaître le monde, il faut lire. Le héros est quelqu'un qui a énormément voyagé, qui a vu le monde, contrairement à tous les bourgeois qu'il va rencontrer dans cette haute société de San Francisco. Et pourtant, finalement, tout revient à la littérature. C'est le moyen de connaître connaissance du monde, le moyen de maîtrise du monde, c'est la clé. C'est la seule clé, et c'est ça qui est vraiment magnifique à la relecture. Cet hommage rendu à l'écriture, à la lecture, la bibliothèque que fréquentera Martin Edem comme centre du monde. Après, il y a énormément de lectures possibles du livre. Il y en a une très belle qui est avancée par Philippe Jaworski dans la préface où, comme vous dites, il dément d'entrée de jeu que c'est un livre autobiographique, enfin en tout cas que là n'est pas sa qualité, mais il en fait un roman classique de la littérature américaine, pardon, en ce que c'est la découverte par le héros d'un nouveau monde. Et là, il y a plusieurs nouveaux mondes. Il y a le monde de la littérature, il y a le monde social dans lequel il atterrit, le monde qui fréquente très brièvement des socialistes engagé activiste de San Francisco. Et cette idée-là est très belle, l'idée de ce héros américain qui part à la découverte du nouveau monde alors qu'il en a déjà vu toute une quantité. Je pense que la ressortie, la traduction est excellente. Je vous avoue que je ne connaissais pas la traduction précédente, donc je ne peux pas faire de comparaison. Mais en tout cas, si vous n'avez pas lu Martin Eden, c'est vraiment le moment de le lire.
Alors, vous avez le 10-18 qui est déjà un peu... Oui, abîmé, il a
servi
ce livre.
Hein.
Et puis maintenant chez Folio, Elisabeth Philippe.
Ça fait partie de mes livres de chevet, que j'offre constamment, notamment aux adolescents. Je pense que c'est un livre que tout adolescent devrait lire. D'autant qu'il y a une autre actualité que le centenaire de la mort de Jack London, si on veut relire Martin Eden, c'est une chanson de Nekfeu, le rappeur Nekfeu écrit une chanson qui s'intitule Martin Eden et qui reprend d'ailleurs les thèmes, ce thème de lutte des classes, qui est au cœur du roman. Vous disiez un roman américain, Elisabeth Franck Dumas, je trouve que c'est aussi un roman qui joue avec les codes du roman américain, notamment ce thème extrêmement, encore une fois, propre à la littérature américaine, qui est celui de l'invention de soi, ou la réinvention de soi, que tout est possible. Et là, on a typiquement affaire à ça avec Martin Eden, matelot qui veut se réinventer en écrivain. Mais Jack London joue avec parce que c'est pas la belle histoire d'ascension à laquelle on est habitué, car elle sera malheureusement, sans tout dévoiler, elle n'aboutira pas au succès éclatant que l'on peut attendre de ce genre d'histoire. Je trouve qu'il joue également avec un thème intéressant. Il renverse la thématique du Pygmalion, puisque dans ce texte, et c'est dit à plusieurs reprises, c'est la jeune femme, donc de la haute société, qui tente de modeler Martin Eden.
Donc, et puis elle est même un petit peu plus âgée que lui.
Elle est un peu plus âgée que lui. Oui, donc ça renverse pas mal de codes, et elle essaye vraiment de le modeler. Et je crois qu'il y a une phrase assez dure, puisque le point de vue du narrateur est assez acerbe selon les banalités qui l'entourent. En fait, il y a quand même une condamnation, je trouve, par Jack London de son héros. Lui disait, j'ai voulu, mais il y a une totale méprise sur mon roman. C'est pas une glorification de l'ascension sociale, mais au contraire une condamnation de l'individualisme. Parce qu'il y a évidemment une dimension très politique aussi dans Martin Eden. On se souvient que Jack London était très engagé politiquement, socialiste, et son héros lui rejette cet engagement politique, et Jack London attribue l'échec de Martin Eden à ce manque d'engagement collectif et à son individualisme forcené. Ça, moi, c'est pas forcément comme ça que je le lis en tant que lectrice. Je trouve que cette dimension politique est pas forcément ce qui me fascine. Moi, c'est toutes ces pages d'efforts, d'acharnement, d'efforts démesurés fournis par Martin Eden. C'est ce genre d'histoire qu'enfin, je sais pas, on adore. Il passe des nuits à travailler, à écrire sans relâche. Il envoie ses manuscrits pour gagner de l'argent. Il va s'épuiser dans une blanchisserie, à travailler comme un forcené. Enfin, ce sont des pages magnifiques et en même temps tragiques. Il y a quelque chose de très, très pathétique aussi dans ce roman, qui est extrêmement poignant, avec ce personnage. Il se définit lui-même comme un taureau dans un magasin de porcelaine, qui est tout à fait mal à l'aise, qui commet toutes sortes de maladresses dans un milieu qui n'est pas le sien. Donc on voit aussi quelque chose qui est toujours un thème malheureusement d'actualité, la violence des classes sociales, du conformisme aussi qu'elles imposent, puisque finalement Martin Eden avait cette particularité, on va essayer de la gommer, on va essayer de le normaliser, entre guillemets, et on ressent toute la violence de cette pression sociale qui est quelque chose malheureusement d'atemporel.
Ouais, autre grand thème de la littérature américaine, la normalisation des originaux et des excentriques. Non, c'est très juste. Ce qui est également poignant et assez critique, c'est que tous ces efforts. Alors bon, il rejette, il faudrait quand même préciser, c'est vraiment par amour de la littérature. On lui offre quantité d'autres emplois qu'il aurait pu, enfin, tout à fait respectable. Non, lui veut vraiment devenir écrivain. Ses histoires, ses nouvelles, ses articles, ses romans sont systématiquement rejetés à un point qui est vraiment, enfin, voilà, bon, il continue, il s'accroche. Et vous avez raison, il y a toujours cette, il y a ce perfectionnement de soi très américain, cette connaissance de soi, tout ça pour arriver à dire, mais finalement, je n'ai jamais été que celui que j'étais avant. Je reste le même, et quelque chose qui vit comme un, finalement tous ces efforts, toute cette énergie dépensée pour découvrir qu'il n'a jamais été que celui qu'il était et qui restera. Et cette sensation d'être incompris qui donne en effet au livre le contraire du happy end qu'on pourrait espérer dans ce genre de trajectoire.
Une petite lecture, non, Elisabeth?
Oui, non, sur cette idée qu'il n'a jamais changé, et donc il ne comprend pas pourquoi, à partir du moment où il rencontre un certain succès, ça y est, il deviendrait fréquentable. Et donc, voilà ce qu'il dit à la jeune femme qu'il a courtisée. Pourquoi n'avez-vous pas eu cette audace plus tôt, donc l'audace de venir le voir, demanda-t-il d'une voix dure. Quand j'étais sans travail, quand je mourais de faim, quand j'étais ce que je suis aujourd'hui, le même Martin Eden, le même homme, le même artiste. Tout est là, enfin, dans cette phrase qui se trouve déjà assez loin dans le roman et qui amorce la tragédie.
Et par rapport à votre 10-18 très usé, Elisabeth Philippe, cette nouvelle traduction...
Alors, je dois vous avouer que je n'ai pas eu le temps de me plonger dans une comparaison extrêmement précise.
Vous avez senti...
J'ai pas l'impression d'une grande différence, honnêtement. Mais encore une fois, voilà, je m'y suis pas penchée de façon suffisamment...
Vous n'avez pas eu l'impression de découvrir un nouveau texte. Non. Parce que parfois, il y a des nouvelles traductions qui sont...
Encore, et ma lecture était quand même très ancienne aussi. Donc,
très bien.
Alors, je ne sais pas. Oui, il faut, la traduction est excellente, elle n'est pas du tout datée. C'est toujours le risque aussi.
Quelle couleur on met dans.
Voilà, exactement, quelle couleur. Il faut que ça soit. C'est un texte de 1909, je crois. Il faut. Et c'est exactement au bon endroit. C'est très juste. C'est à souligner.
Bon, soulignons cette bonne traduction de Philippe Jaworski, qui est responsable également de l'édition de ce livre de Jack London, Martin Eden, publié en folio.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Nous poursuivons cette dispute consacrée ce soir à la littérature avec le dernier roman en date de Philippe Forest, Cru, C-R-U-E, publié chez Gallimard. C'est d'abord comme essayiste que l'on a connu Philippe Forest, spécialiste des courants d'avant-garde, mais aussi plus récemment biographe d'Aragon. Son œuvre romanesque s'origine dans un drame personnel, la mort de sa fille à l'âge de 4 ans, portée par un cancer. Le premier livre lié à cette mort s'intitule « L'enfant éternel ». Et puis je garde « Sarinagara », publié en 2004, pour moi le plus beau livre, croisant le réel, le récit et l'essai, le plus beau livre de cet auteur. Thank you. fut comme une épidémie, mais le monde n'en sut jamais rien. Le phénomène dont je parle, il n'existe pas de chronique qui en ait enregistré la trace et qui permettrait d'en reconstituer le cours. La maladie, si tant est qu'un tel mot s'applique, sévit dans le secret. En un sens, elle est le secret. EST. Nul ne peut dire quand la contagion commença et nul ne peut affirmer qu'elle soit maintenant terminée. Il est même très douteux qu'elle ait eu un début et une fin. Je serais incapable de dater avec une précision même relative les événements que je me prépare à rapporter dans ces pages. Des signes étaient venus en grand nombre dont le monde aurait dû prendre la mesure. Mais moi-même, je les réalisais seulement après coup et lorsque j'ai eu compris ce qu'ils signifiaient. Aux yeux des autres, je ne pense pas qu'ils veuillent dire quoi que ce soit. Et même quand j'aurai révélé tout ce que je sais, on ne manquera pas de tenir mon récit pour une fable. Ainsi s'ouvre donc Cru, livre de Philippe Forest, qui s'aventure, on pourrait le dire comme cela, en totale fiction, mais tout en nourrissant celle-ci de ses livres précédents, de sa vie même, fiction, quand bien même ce récit qui voit Paris connaître une forte crue a failli correspondre à la réalité de l'actualité au moment de sa sortie, mais c'était écrit bien avant. Cette crue, c'est aussi la vérité crue, bien sûr, la réalité de la disparition de tout et de tous. On est encore, on pourrait dire qu'on nage en pleine gaieté avec cette crue. Élisabeth Philippe.
Oui, la gaieté, c'est vraiment le thème de l'émission de ce soir. Ce roman de Philippe Forest s'inscrit vraiment dans la droite ligne de son précédent, Le chat de Schrödinger. On retrouve d'ailleurs le chat qui venait...
Ce qui n'est pas pour vous déplaire, Elisabeth.
Puisque vous abordez le sujet. Non, mais sans tomber dans 30 millions d'amis. Voilà, le chat Schrödinger, donc, qui était présent dans le roman précédent que j'ai trouvé, enfin, vraiment magnifique, une espèce de méditation métaphysique, et assez fantasque. Il y avait déjà un début de, une amorce dans la dimension fantastique de la part de Philippe Forest, qui est beaucoup plus assumée, dans ce roman-là, dans Cru. Donc, on retrouve le chat qui, à nouveau, va ouvrir les portes de mondes parallèles. Donc, comme vous le disiez, on est dans un Paris à la fois une espèce de décor de ville déserte avec des ombres errantes, un Paris, un décor, on ne sait pas si c'est pré ou post-apocalyptique, une espèce de ville désertée, et le narrateur vit dans un immeuble où il n'y a quasiment personne, jusqu'à ce qu'il découvre deux voisins au moment d'un... où un refuge pour sans-papiers prend feu. Il sort pour voir ce qui se passe et il tombe nez à nez avec une femme et un homme qui sont donc ses voisins qu'il n'avait jamais vus jusqu'à présent. Il va nouer une relation avec la femme et également une relation d'amitié avec l'homme jusqu'à la crue, la fameuse crue. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce texte, comme toujours chez Philippe Forest, qui tisse avec énormément de délicatesse différents thèmes, différentes réflexions, toujours dans une langue d'une limpidité absolue, je trouve, et particulièrement dans ce livre liquide. Alors. On peut penser, puisqu'il s'aventure dans les marges, moi j'ai pensé un peu au texte de Jean Rollin ou de Philippe Vasset, il parle de la clôture notamment, on est dans une espèce de quartier périphérique. Alors, on dit Paris, mais en fait jamais la ville n'est nommée, il parle d'une grande métropole, mais on ne sait pas si c'est Paris ou pas. La ville n'est pas nommée.
Oui, non. C'est clairement le quartier de la BNF.
C'est clairement le quartier de la BNF, je suis d'accord.
Pour peu qu'on connaisse...
Tout à fait. Non, mais c'est
ce nouveau quartier du 13e arrondissement.
Mais il s'aventure donc dans ces marges, il y a des SDF, des sans-papiers, c'est aussi tous les mondes qu'on ne veut pas voir, ces mondes parallèles, c'est évidemment les mondes où vivent peut-être les disparus, les morts, mais également les mondes où sont relégués les malades, les personnes âgées. Donc il y a toute cette dimension moi qui m'a donc rappelé aussi bien les livres de Jean Rollin que de Philippe Vasset. Avec le thème de la crue, j'ai également pensé à un livre récent de Pierre Patrolin paru chez POL. C'était La montée des cendres, ouais, il me semble.
Et titre génial.
Titre absolument génial. Et on retrouve un peu les mêmes ambiances, ce côté toujours pré- ou post-apocalyptique, encore une fois, fantomatique, puisque finalement, ce livre parle de quoi ? C'est de, comme toujours chez Philippe Forest, c'est comment on vit avec les fantômes, comment on vit avec ceux qu'il appelle les revenus, ceux qui ont disparu et qui reviennent, mais disparus où ? Est-ce qu'ils sont vraiment morts ? Est-ce qu'ils sont pas dans un autre monde ? C'était déjà la réflexion amorcée dans le chat Schrödinger et puis dans les livres précédents. Et là, qui pousse vraiment très très loin en mettant son livre sous l'égide d'un écrivain anglais que personnellement, je ne connaissais pas, Arthur Machen. Je ne sais pas si on le prononce comme ça, d'ailleurs.
Voilà. No conosco.
En tout cas, écrivain romans fantastiques. Alors, moi, il y a une seule chose qui m'a un tout petit peu gênée, si j'avais une petite réserve à faire sur ce livre, puisque cru, évidemment, il joue également sur la polysémie du terme. Il y a la crue donc du fleuve, de la Seine, crue, la vérité crue, mmh. vous l'avez dit, Arnaud. Et puis, est-ce qu'on y croit ? Donc, mmh. tout le rapport ouais. à la fiction
cette
aussi.
Cette histoire est crue.
À plusieurs reprises, le narrateur évoque l'idée selon laquelle la fiction prend sa revanche sur la réalité, puisqu'on assiste à des choses tellement incroyables avec cette crue, avec la disparition des êtres. Est-ce que c'est pas la fiction qui prend sa revanche sur la réalité ?
Mais parce qu'il dit quand la réalité arrive, c'est si elle ressemble à la fiction, c'est là qu'on y croit, parce que sinon on n'y croirait pas.
Oui, donc il y a tout un jeu, voilà, un peu complexe de ce type-là. Mais ce qui me retient, c'est au départ, il y a toute une il ouvre son livre par une espèce de jeu entre de dissociation et en même temps où il brouille les pistes entre l'auteur, le narrateur. Je trouve pas ce dispositif forcément utile puisque c'est toujours pour renforcer l'effet de fiction, même de métafiction. Je trouve pas que ça fonctionne réellement et je pense que le livre aurait pu s'en passer. Je trouve que ça vient brouiller un peu inutilement la lecture d'un texte qui est déjà suffisamment riche.
Elisabeth Franck-Dumas.
Ben c'est vrai que c'est un livre assez déroutant et c'est un livre qui ne tient pas toujours les promesses qu'il fait. Mais j'ai tendance à penser que ça fait partie du jeu et que ça fait partie
vraiment. Ce paragraphe que j'ai lu qui est l'ouverture. Oui. On attend, sauf que, bon, on va pas tout dire, mais on peut attendre un moment.
Il y a énormément de choses qu'on attend et qui ne viennent jamais. Il y a des explications qui sont données à des phénomènes qui, en fait, ne valent rien, dont celle d'un prédicateur qui passe quand même, enfin, moi, je l'ai appelé le prédicateur, mais qui passe un grand nombre de pages à parler de la disparition.
La fin du monde, le retour.
Ouais. Bon, la leçon du livre, c'est que les gens disparaissent et qu'on n'y peut rien. Mmh. Et c'est comme ça. Et c'est
tout disparaît.
Tout disparaît. Et en fait, tout ce jeu-là, je suis d'accord avec vous, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus réussi, mais je pense qu'en tout cas toutes ces promesses-là ne sont jamais tenues à dessein et qu'une grande quantité de choses qui nous sont annoncées n'adviennent jamais à dessein. Après, je trouve que c'est un livre, notamment toute la première partie, il y a des pages absolument magnifiques sur ce que vous décriviez, Elisabeth Philippe, cette ville morte, cette ville fantôme, cette ville habitée de fantômes, ce climat extraordinaire. Il y a cette phrase d'ailleurs très amusante qui est tout à fait vraie, que si l'on y réfléchit, c'est toujours chez les morts que l'on vit, bien sûr. Il y avait toujours, à moins évidemment d'habiter dans un immeuble très moderne, mais qui se serait construit sur les ruines d'autre chose. Lui-même habite près d'une gare d'où partaient les trains vers la déportation. Et en fait, il raconte un petit peu les sédiments de cette ville, tout ce qui est venu avant que la spéculation immobilière transforme, et le fait que tous ces fantômes, qu'ils soient bien réels, comme ceux qui habitent dans ce foyer pour travailleurs clandestins, ou qu'ils soient des fantômes du passé, habitent tout cela à tel point que lui-même ne sait pas plus vraiment s'il est un fantôme ou s'il ne l'est pas. Et le lecteur aussi peut douter de sa réalité et peut douter qu'il y a bien deux personnes dans ce narrateur et dans l'écrivain. Et je trouve que tout ce jeu-là, cette espèce de zone grise, vous aviez raison, je pense, de parler de Rollin. Il y a d'autres moments où on peut penser à Modiano. Moi, j'ai même pensé à Borges aussi. Alors, ce n'est pas du fantastique, je dirais plutôt que c'est de l'étrange. Puisque finalement...
Mais souvent chez Borges aussi.
Oui, voilà, il y a toujours une explication. Et ce climat-là, cette ambiance-là, qui finalement vient nous dire quoi ? Qu'en fait, on ne peut jamais... Lui-même était parti, donc le narrateur a perdu sa fille de 4 ans, il revient dans le quartier où il a grandi, évidemment, il ne reconnaît plus rien. Et parce qu'il dit cette chose très simple, qui est qu'on ne peut jamais rentrer chez soi. On ne peut jamais revenir au foyer qui a été déserté.
Mais juste ce passage, avant de... que vous poursuivez, c'est ce qu'il dit, il n'y a pas de sensation plus étrange que celle qu'il éprouve lorsque ses pas conduisent un homme devant un lieu qu'il a, dans un passé lointain, habité. On voudrait pousser la porte sans revenir chez soi. On se demande qui poursuit l'existence qu'on a autrefois menée dans une maison qui n'est plus la sienne, sur laquelle on n'a plus aucun droit, où sa place n'est plus. Facilement, on se figure être un fantôme revenu hanter, invisible, les lieux où jadis il a vécu.
Oui, voilà, toute cette partie, d'ailleurs je crois que c'est dans la première partie du livre, je dirais que la première partie du livre est d'une majesté, est d'une beauté, vraiment, c'est vrai qu'après on se perd un petit peu plus dans les fils des jeux métafictionnels, mais je trouve que tout le début est vraiment extraordinairement beau autour de ce manque et de ce qu'on vient creuser autour de ce manque que rien ne peut réparer. Et puis il y a des images incroyables, lors d'une visite à l'hospice pour aller voir sa mère. Il parle d'un enfant prisonnier dans le corps d'un vieillard qui se débattrait pour en sortir. Enfin, il y a vraiment des ou de ce quartier moderne construit sur les ruines d'un ancien quartier qui serait comme un entonnoir dont la réalité ruisselerait sur les bords de cet entonnoir. Enfin, nous aussi, on ruisselle dans l'entonnoir. Il y a vraiment le ressassement, la répétition, je dirais la figure cylindrique dans laquelle on est avalé fonctionne assez bien. Lui-même d'ailleurs parle souvent de mastication, de choses ruminées, ressassées. Il y a un petit peu de ça. Ça fonctionne. Alors on est pris dans le courant. On se laisse emporter.
Dans les saurages, mais il y a aussi le fait que Philippe Forest est un grand styliste. Hein, moi, j'aime beaucoup vraiment son écriture, mais qu'il joue, on peut faire un rapprochement, alors qu'il vaut ce qu'il vaut, parce que l'écriture est très différente. On peut se dire qu'il y a un projet David Foster Wallacien de nous perdre. C'est-à-dire que plus le narrateur veut être précis, et plus il floute davantage la focale. C'est-à-dire que c'est de l'accumulation naît notre perdition dans ce récit, dans sa réalité, dans sa fiction. Et Philippe Forest joue évidemment de cela. Et il y a aussi, mais c'est vrai, une forme d'humour aussi présente dans ce livre cru. Un dernier mot, Elisabeth Philippe.
Oui, non, d'autant qu'il y a beaucoup d'alcool. Il n'y a pas que l'eau dans ce roman. Il y a aussi beaucoup de whisky. Et je trouve simplement que la construction par court paragraphe, donc il laisse beaucoup de blanc dans le texte, rien que ça, visuellement, je trouve que ça sert aussi le propos de Philippe Forest. On a l'impression que dans ces blancs viennent souffler les fantômes. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ça, je trouve aussi que c'est très réussi. Ne serait-ce que visuellement, enfin, la mise en page sert aussi le texte lui-même. Et j'ai pensé aussi, enfin, les fantômes sont très présents, on vit beaucoup parmi les fantômes. Il y a Personal Shopper, le magnifique film d'Olivia Assayas qui devrait sortir prochainement.
Magnifique, là, c'est votre commentaire.
Aimé.
On fera une dispute.
Moi, je l'ai beaucoup aimé.
Semaine prochaine, dessus,
où j'ai pensé aussi au livre de Jarmusch, Only Lovers Are Left Alive. Avec ses
magnifique film.
On peut dire là,
ouais.
Magnifique.
Non, mais je peux le dire et vous pouvez le dire autant que vous voulez.
J'ai certaines réserves, mais je trouve que ça reste une errance qu'on a plaisir à poursuivre auprès de Philippe Forest.
Je souscris également. Cru de Philippe Forest, publié chez Gallimard. Et pour conclure l'émission, le jeu de la dispute. Lucille Comeau, un retour et un rappel du jeu d'hier soir.
Quelle actrice française a tenu le premier rôle d'un film de Brillante Mendoza? Et la réponse est, évidemment, Isabelle Huppert.
Ouais, le évidemment est de moi, d'accord. Vous m'avez dénoncé là. Bon, on fait gagner ce soir des invitations pour l'exposition Présumé coupable, 14e, 20e siècle, jusqu'au 27 mars au Musée des Archives Nationales, Hôtel de Soubise à Paris. Et je précise que le évidemment me réjouit concernant Isabelle Huppert. La question alors pour revenir à Présumé coupable.
Dans cette exposition, on peut lire le procès-verbal d'un interrogatoire d'Arletty en 1944. De quoi était-elle accusée?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfranceculture@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Elisabeth Franck Dumas, Elisabeth Philippe et Lucille Comeau. Merci à l'équipe qui prépare ces émissions. Virginie Ledieu, Josué Morel et Boris Pinault. Prise de son assurée ce soir par Pascal Bénard. Réalisation signée Daniel Finot. Rendez-vous lundi à 21h pour une dispute consacrée au spectacle vivant en compagnie de Marie-Josée Sirache et Philippe Chevillier. À notre programme de Thomas Bernard par Christiane Loupa, Des arbres à abattre et Place des héros. Et puis pour un oui ou pour un nom de Nathalie Sarraute, mise en scène Léonie Simaga au théâtre de Poche Montparnasse. Notre rendez-vous lundi. D'ici là, vos programmes se poursuivent sur France Culture à 22h15. Les discussions du soir dans quelques instants, le journal de la rédaction.